Bonjour à toutes et à tous, c'est un véritable feuilleton qui a débuté en 2012 lorsque le groupe Yves Rocher décide de revendre l'île de Berder à l'Armor Baden. Depuis que le groupe Giboire a racheté l'île pour en faire un hôtel 4 étoiles, opposant et favorable au projet se déchire par médias interposés. Une bataille qui est également judiciaire et qui s'est terminée par une victoire des opposants en juillet dernier avec une décision du tribunal administratif qui conduit le groupe Giboire à annuler son projet hôtelier. Une association baptisée Berder Ensemble est née de ce combat contre ce projet hôtelier. Deux de ses membres ont accepté de décrypter avec nous les différents épisodes de ce feuilleton. Catherine Guédan, vous êtes coprésidente de Berder Ensemble, bonjour.
Bonjour Faisal.
Et Alain Goffi, vous êtes membre du comité d'animation de Berder Ensemble, bonjour.
Bonjour.
Avant de parler des manifestations que vous avez mises en place et de la bataille judiciaire autour de ce projet immobilier sur l'île de Berder, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui fait le charme et la singularité de cette île ?
Alors, cette île a d'abord une position géographique au sein du golfe du Morbihan absolument extraordinaire. C'est un emblème pour la plupart des Morbihanais et des Vannetais, parce que je crois que la plupart des Vannetais vont s'y promener simplement le dimanche, hein, simplement de la balade. Elle a un accès extraordinaire aussi par son gouas. Je dirais qu'il n'y a que, à ma connaissance, enfin, sauf erreur de ma part, que deux îles accessibles à marée basse au sein du golfe du Morbihan. Ça, c'est déjà, je dirais, l'arrivée sur Berder. Vous n'y rentrez que lorsque la marée est basse. Sinon, vous ne pouvez pas y aller.
Il n'y a pas de bateau qui font le
voyage. Il n'y a pas de bateau qui fait la navette.
Il y a juste quelques bateaux qui ramassent les gens qui ont raté le retour de la marée.
Voilà, mais il n'y a pas de navette gratuite ou autre, ou même payante. Ensuite, vous arrivez dans ce lieu avec un espace boisé absolument extraordinaire. Il faut savoir que cette île a quand même 70% d'espace boisé en son sein.
Avec une végétation de type méditerranéen, voilà, unique dans la région.
Unique dans la région, et d'ailleurs, LVT, qui a exploité un loisir vacances tourisme, avait fait, je dirais, tout un parcours pour notifier tous ces arbres qui n'étaient pas de la région. Si vous voulez, il y avait vraiment un chemin de balade pour montrer tous ces arbres extraordinaires qui, effectivement, ne sont pas locaux. Ensuite, vous faites le tour par le sentier du littoral et ce sentier vous amène sur le courant de la jument. Et là, vous avez une vue, mais enfin, sauf être complètement en dehors du temps, je veux dire, vous restez scotché. Rien que de regarder le courant de la jument à cet endroit-là, c'est absolument magnifique. Ensuite, il y a les bâtiments, parce que bon, il y a la végétation, effectivement. Bon, il y a des asphodèles, il y a des pins, il y a des chênes, il y a tout ce qu'on veut. Il y a une nature ordinaire, mais justement, c'est ce qui fait son charme, parce que c'est ça la biodiversité. C'est un ensemble de choses. Et vous arrivez sur ce château, et sur cette tour qui existait, qui malheureusement est tombée.
Hein,
on en parlera plus tard. Mais qui a un charme un petit peu suranné, on va dire des années 20, du début du siècle, mais qui a un charme certain. Et vous avez aussi une magnifique chapelle auquel on ne peut plus accéder depuis quelques années parce qu'elle est en trop mauvais état et que c'est dangereux.
Il y a beaucoup de monde à la visiter, cette île. C'est le troisième bout de terre le plus connu du Morbihan avec l'île d'Arre et l'île aux Moines.
Il y a effectivement beaucoup de gens. Il faut quand même vous dire qu'il y a environ 200 000 habitants, je dirais, dans l'agglomération de Vannes. Et c'est vraiment une promenade dominicale et c'est un espace remarquable.
Elle a accueilli également de nombreuses colonies, classes de mer qui étaient hébergées à l'époque dans un centre de vacances.
Voilà, c'est le centre de vacances LVT, loisirs, vacances, tourisme. On a beaucoup d'adhérents qui ont le souvenir enfant. Vous allez me dire, c'est pas des jeunes, mais peu importe, d'avoir passé des vacances extraordinaires. C'était la liberté et on payait en fonction de son coefficient familial, c'est-à-dire c'était vraiment ouvert à tous.
Cette île, elle a appartenu à un comte, une duchesse,
oui,
plusieurs congrégations religieuses avant d'être rachetée par le groupe Yves Rocher, qui l'a mise en vente en 2012. On peut dire que c'est le début des problèmes, cette mise en vente.
C'est tout à fait le début des problèmes parce que Monsieur Yves Rocher, si vous voulez, a quand même, je dirais, fait une tentative, s'est approché du président du conseil départemental de l'époque, Monsieur Goulard, pour lui demander s'il ne serait pas intéressé au nom du département, de racheter cette île pour en faire un bien public. Parce qu'effectivement, en tout cas, nous, notre idée, notre grande idée et qui nous fait avancer, c'est de vouloir faire de cette île un parc départemental ouvert à tous.
À l'époque, il y avait même une pétition pour qu'elle soit protégée et qui avait récolté plus de 12 000 signatures.
Alors, cette pétition est toujours d'actualité. Elle est toujours en cours. On peut la signer sur pétition publique ou alors sur notre site Berder Ensemble. Nous avons plus de 15 800 signatures au jour d'aujourd'hui.
Donc à l'époque, elle aurait dû être rachetée par le département pour éviter tous ces problèmes ?
Elle aurait pu l'être. Ça n'a pas été la volonté du département.
Est-ce que c'était un problème de finance ?
C'est ce que M. Goulard a mis en avant.
Il faut rappeler qu'elle était vendue à l'époque 10 millions d'euros. Il fallait compter également 10 millions d'euros pour la restauration du manoir.
Voilà.
Le centre de vacances, du coup, à la vente de cette île, a dû fermer ?
A dû fermer. Bon, il n'a pas trop le choix alors qu'il avait un bail emphytéotique. Et donc, il a dû fermer et ça s'est fait dans beaucoup de douleurs, je veux dire. Hein.
L'île est vendue en juin 2013 au groupe Giboire. C'est vraiment acté en 2016. On en parlera dans un instant. Les projets du groupe pour l'île sont dévoilés en septembre 2014. À l'époque, le groupe assure que les promeneurs pourront continuer à visiter l'île par le passage empruntable à marée basse. Il n'y avait pas forcément de contestation immédiate au projet.
Non, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a pas eu de contestation. Bon, il y a eu des contestations, mais qui ne sont pas à monter, si vous voulez. On ne les a pas entendues. Hein. Mais je pense qu'au fil du temps, les gens se sont rendus compte, et puis on bouge, on change, voilà, avec le temps, se sont rendus compte qu'on était en train de leur enlever un patrimoine qui leur appartenait. Et à partir qu'ils considéraient en tout cas leur appartenir. Hein. Et là, vraiment, il y a eu une montée en puissance de la volonté de vouloir se réapproprier ce bien et de ne pas laisser faire n'importe quoi.
Elle est officiellement vendue en 2016. Pourquoi ça a mis autant de temps ?
Alors là, je ne sais pas pourquoi ça a mis autant de temps. Beaucoup de tractations, certainement. Il faut savoir qu'elle a été estimée 10 millions d'euros et que M. Giboire l'a achetée 4 millions.
Deux fois moins, donc.
Deux fois moins. Et là, je pense, mais voilà, ça n'engage que moi, 4 millions d'euros, le département avait les moyens. 10 peut-être pas, mais 4, oui, sûrement.
Est-ce qu'elle a été entretenue pendant toutes ces années, notamment le manoir qui nécessitait des travaux ?
Non.
Là, il est clair que le travail qu'aurait dû faire M. Giboire était l'entretien de tous les bâtiments existants. Ce qu'il n'a pas fait, ce qui a déclenché l'effondrement de la tour qu'on a vu il y a moins d'une année, là. Et pour lui, ça reste des choses normales, accessibles. Si je rappelle ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est que s'il n'y a pas une opposition directe au projet de Giboire, c'est parce qu'en fait, il l'avait très peu développé. Une fois qu'on a commencé à connaître les tenants et les aboutissants, quand il parlait de mettre une centaine de places de parking, on se disait, le Gois, voilà, le Gois va disparaître, qu'est-ce qui va se passer ? On va lui mettre un pont, on va le bétonner. Quand on va faire une centaine de chambres, c'est un chantier colossal. Et de toutes les manières, en plus, il y avait toutes les parallèles, genre piscine, spa et consorts. Et ça, les gens s'apercevant de ce que Berder allait devenir, c'est là où l'opposition est devenue de plus en plus forte. Et à l'heure actuelle, on a des dizaines de milliers de sympathisants.
Est-ce que vous pouvez nous présenter justement le projet immobilier qui est défendu par le groupe Giboire ?
Oh bah, globalement, on va dire que c'est un hôtel de 4 étoiles, 80 chambres, 97 places de parking, une piscine, un spa, un restaurant, et tout ça sur un parc de 23 hectares, sur lequel il ne développe pas du tout l'occupation du sol. Il essaye toujours de calmer les donnes pour que les opposants restreignent un peu leur réticence, quoi.
Et son argument, excuse-moi, je complète, son argument principal, c'est de toute façon, le sentier côtier, vous y aurez toujours accès. Mais on est inquiet dans le sens où on se dit, s'il a un parc de 23 hectares pour son hôtel, il va le fermer, ce parc. Donc, qui est-ce qui va être enfermé ? Les gens qui sont dans l'hôtel ou les gens qui sont sur le sentier côtier et qui vont se retrouver avec des palissades tout le tour du sentier côtier ? C'est une problématique, on va dire, on s'interroge. De la même façon, le sentier côtier a quand même été amputé par M. Giboire d'une partie, puisque comme vous devez le savoir, il occupe à titre illégal les pêcheries qui sont sur le domaine maritime en partie. Et ces bâtiments, puisqu'ils sont sur le domaine maritime, devraient être réservés exclusivement à une activité maritime, ostréiculture par exemple.
On va faire une pause musicale et on parlera dans la seconde partie de cette émission des manifestations contre ce projet immobilier et de la bataille judiciaire qui a eu lieu devant les tribunaux. Mais avant cela, si on devait résumer, vous en avez parlé un petit peu là tout de suite, ces arguments contre ce projet immobilier, si on devait les résumer, quelles sont les principales critiques qui sont faites à ce projet ?
Bétonisation, automatiquement. Privatisation d'un espace pour tous, pour quelques nantis, la mort d'un écosystème, tout simplement. Je veux dire que vous imaginez, enfin, imaginons la rotation des camions, ne serait-ce que ça, pour la construction, quoi. Pour amener le béton pour la construction d'un hôtel 4 étoiles. Donc réservé, on va dire, à une élite, bien sûr. Et en plus, le gouas. Qu'est-ce que devient ce gouas qui est vraiment génial, quoi? Qu'est-ce que ça devient? On arrive là sur l'île de Berder et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment les camions peuvent passer là-dessus sans toucher au gouas? Parce que M. Giboire ne dit rien là-dessus. Il n'en parle pas. Mais les camions, ils ne peuvent pas passer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Je crois qu'il faut se poser les vraies questions.
Il y a beaucoup d'inconnus, donc.
Il y a beaucoup d'inconnus. Et M. Giboire ne s'exprime pas.
Vous craignez également que l'activité commerciale ne dégrade la qualité environnementale de l'île?
Tout à fait. Ça ne peut pas être autrement, si vous voulez. Alors, sans être vert, hein, je veux dire, et sans vouloir tout laisser sous cloche, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire et il faut surtout respecter le droit avant toute chose.
On va faire une pause musicale. On se retrouve dans la seconde partie de l'émission avec Catherine Guédan et Alain Goffy du collectif Berder Ensemble pour parler des oppositions au projet immobilier du groupe Giboire sur l'île de Berder. Et on s'écoute le morceau « Île » de Jean-Michel Karadec.
Tu es né de la pluie, de ma folie, assaillie par les vagues. Oh, île, tu surgis de l'oubli, ton paysage naît dans les nuages.
C'était le morceau « Île » de Jean-Michel Karadec et tout de suite on continue à parler d'une île, justement celle de Berder, à l'Armor Baden.
À du Pépin.
Radio Broadway Net.
On est de retour dans la seconde partie d'Adieu Pépa avec Catherine Guédan et Alain Goffi de l'association Berder Ensemble pour parler des oppositions au projet immobilier du groupe Giboire sur l'île de Berder. Un permis de construire est déposé en janvier 2019. Un an plus tard, en janvier et février 2020, une consultation est proposée au public pour s'exprimer sur le projet hôtelier du groupe Giboire. C'est là que les associations montent au créneau et critiquent ce projet.
Oui, tout à fait. Le permis de construire a été délivré le 6 mars 2020. Par la commune de Larmor-Baden. Et là, vraiment, nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas comment un permis de construire a pu être délivré dans son intégralité. On a l'impression qu'il n'a pas été étudié. Hein, c'est-à-dire qu'au niveau de l'impact environnemental, on se dit qu'il y a méconnaissance du droit.
Vous avez expliqué dans la première partie de l'émission ce que vous reprochiez à ce projet immobilier. On vient de le dire, les associations sont montées au créneau dès la publication de ce permis de construire et puis de cette consultation qui a été lancée en janvier et février 2020. Est-ce qu'à l'époque, les associations proposent autre chose pour l'avenir de cette île ?
À l'époque, nous étions, et nous sommes encore, si vous voulez, sur le parc départemental.
Mais sachant que c'est trop tard, ça a été racheté par un groupe.
Ça a été racheté par un groupe, mais ce groupe, il abandonne son projet. Donc, on va dire, rien n'est gagné, parce qu'il est toujours propriétaire de l'île. On a juste gagné une petite bataille, mais pas la guerre. Mais néanmoins, il peut vendre. On peut lui dire que ce serait bien, je ne sais pas qui, mais nous on voudrait s'appuyer sur les collectivités pour qu'elles fassent entendre un petit peu leur voix.
Ce qu'on voudrait, c'est qu'on retrouve une activité sociale sur cette île qui a été perdue dès lors que le privé a acquis cette île. Le but, ce serait que toutes ces organisations puissent se mettre autour de la table et développent un projet qui serait acceptable pour l'intégralité de la population, pour tous les Vantais.
Même si l'intérêt du groupe Giboire aujourd'hui est surtout économique, son
voilà.
Intérêt, c'est pas forcément...
Non, son intérêt est un intérêt financier, c'est un promoteur, on le comprend très bien. Je dirais qu'on dit tous que un hôtel 4 étoiles, très bien, mais qu'il aille le faire ailleurs.
Les associations de protection de l'environnement qui contestent ce projet se lancent à ce moment-là dans une bataille judiciaire. Elles sont au nombre de 4, on va les rappeler, les Amis de Chemin de Ronde, Qualité de Vie à Larmor-Baden, les Amis du Golfe du Morbihan et la Fédération d'associations de protection de l'environnement. En juillet 2020, elles lancent un recours contre le permis construire. C'est donc une bataille qui, après avoir débuté dans les médias, se poursuit devant les tribunaux avant même qu'elle soit dans la rue.
Tout à fait. C'est le rôle, on va dire, des associations environnementales de mettre en avant leur pouvoir juridique, si elles en ont, bien sûr. Ce n'est pas notre cas, nous. Hein. Nous n'avons pas de membres, je dirais, de droit. Bon, ça va peut-être venir, mais pour le moment, on n'en a pas. Donc, nous, notre rôle a vraiment été d'être un soutien, de mettre en avant, si vous voulez, toute cette lutte, parce qu'en fin de compte, le travail qui a été fait par ces associations environnementale, personne, quasiment personne, ne s'y est intéressé. On a porté ça un petit peu sur le devant de la scène hein, et on les a aidés, si je pense pouvoir dire ça, à faire connaître la problématique parce que beaucoup de gens ne connaissaient pas, et c'est vraiment à ça qu'on s'est attelé, ne connaissaient pas le projet Giboire.
On va parler dans un instant des manifestations que vous avez mises en place dès septembre 2020. Mais avant ça, les premières manifestations sont d'abord des manifestations de citoyens favorables à ce projet en août 2020. Ils sont 180 le 2 août et 250 le 23 août. Il y a donc des gens favorables à ce projet également.
Tout à fait, il y a des gens qui se sont dit, excusez-moi, favorables à ce projet. Ils ont surtout mis en avant le problème de l'emploi. Alors, nous, on est très réticents, on les trouve très naïfs sur ce sujet-là. On préfère parler de naïveté que d'autre chose. Parce que d'abord, cette association s'est créée comme ça, tout d'un coup, en deux coups de cuillère à peau, au mois d'août. Bon, peu importe, ça, c'est pas très grave. Mais c'est surtout qu'on sait très bien qu'un hôtel 4 étoiles, où qu'il soit, n'a jamais développé d'emploi locales. Tout est externationalisé. Ce seraient des sociétés de services qui feraient le travail et que... Je peux comprendre que l'Armor Baden ait besoin d'emplois, ça je l'entends parfaitement, mais ce n'est pas un projet Giboire tel que Giboire qui pourrait en apporter.
Ces personnes qui sont favorables également émettent comme argument le fait que dans ce projet, il y aura la garantie de la restauration d'un immeuble qui est vieillissant.
Alors, il est vieillissant depuis l'achat par M. Giboire, donc depuis 2016. C'est-à-dire que depuis 2016, M. Giboire aurait pu faire des travaux de restauration ou tout au moins de confortement du bâti. Il n'en est rien. Et il a même dit dans une interview « Vous n'imaginez pas que je vais restaurer si mon projet ne peut pas voir le jour ». Donc, sa volonté, telle que nous l'entendons, c'est plutôt de laisser pourrir les choses.
Il voit également ces personnes favorables à ce projet, la perspective de création d'un verger, même d'un vignoble, ainsi que des emplois et pour les commerçants, la venue d'une clientèle aisée.
Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce qu'ils vont vivre entre eux. Ça va être de l'entre-soi. Ils auront tout à leur disposition au sein de ces 23 hectares si elles sont privatisées et qu'au niveau de l'emploi du commerce à l'Armor Baden, il y aura très peu de choses.
Il y a quand même 50 emplois qui seront créés pour...
Oui, mais ça, c'est du virtuel. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est ce que l'on dit. C'est-à-dire, on dit, oh, il y aura 50 emplois. Mais j'ai envie de dire, Monsieur Giboire, dites-nous lesquels ? Dites-nous lesquels, quel type d'emploi allez-vous proposer sur l'Armor Baden ?
Ça créera notamment des emplois sur l'île pour gérer cet espace hôtelier ?
Alors, des emplois sur l'île, oui, mais qui vous dit qu'ils vont prendre des gens, des employés sur l'Armor Baden ? Ils vont peut-être aller les chercher, je dis n'importe quoi, là j'exagère, dans les pays de l'Est.
Ouais, ce que soulignait tout à l'heure Catherine, c'est que, en fait, un hôtel de luxe, il est géré strictement par des prestataires externes. Vous devez être trilingue. Vous n'allez pas trouver des l'Armor Baden-Noir trilingue. La cuisine doit être assurée, mais non-stop, 24 heures sur 24, de luxe. Et ça, c'est des sociétés externes qui vont les réaliser, qui assureront à l'hôtelier une garantie de pérennité de service en permanence. Ça va jusqu'au nettoyage. Au nettoyage, ils ne vont pas recruter des gens de l'Armor Baden. C'est une société externe dont le travail sera tout quantifié, régularisé, et ça sécurise complètement la gestion d'un hôtel. Donc, les habitants de l'Armor Baden, quand ils disent « mais je vais pouvoir aller bosser sur l'île », c'est une erreur. Ils ne travailleront jamais sur cette île.
Alors, je le disais il y a un instant, les premières manifestations sont d'abord celles des personnes favorables à ce projet en août 2020. Ils sont 180 le 2 août, 250 le 23 août. Et dans la nuit du 23 au 24 août, une voiture est dégradée par un jet de pierre. Mmh. Les associations, à ce moment-là, qui contestent le projet, y voient un acte d'intimidation.
Oui, tout à fait, parce que, bon, je ne citerai pas la voiture de qui, mais effectivement, c'est une personne qui travaille dans une des associations environnementales. Et ça, c'est vraiment... c'est très petit, quoi. Je veux dire, ce sont des actes vraiment. C'est des voyous. Enfin, c'est simplement des voyous. Bon, voilà.
Il se trouve en fait que les pros Giboire et les contre Giboire ne se sont quasiment jamais rencontrés. Et ça, je dirais que c'est peut-être le fait du maire de l'Armor Baden qui a créé un groupe. Et cette association, c'est directement une émanation de M. Bertholome. D'un autre côté, il n'y avait pas de discussion possible entre les deux groupes. Les arguments étaient figés d'un côté et non négociables. Donc, on n'a jamais eu l'occasion d'essayer de mettre sur le tapis ensemble les réalités et de ce qu'on aurait pu en tirer dans l'intérêt de tous.
Non, ça a toujours été des agressions. Verbales, bon, jamais physiques, si vous voulez, bon, à part ce jet, effectivement, mais des agressions verbales. Aucun moyen de discuter, parce que c'est intéressant, la discussion. C'est très intéressant. Il peut en sortir quelque chose.
Donc ça crée des tensions au sein de la commune ?
Oui, oui, et c'est vrai que certains de nos adhérents, parce que nous avons pas mal d'adhérents sur l'Armor Baden, certains adhérents étaient très très mal. On a même croisé pendant la manifestation une dame qui nous a dit bravo, elle était dans son jardin, et on lui a dit, ben, rejoignez-nous, venez avec nous. Elle a dit, non, j'ose pas, j'ai trop peur. C'est vraiment, il y a, bon, ça s'est calmé un peu maintenant, mais il y a eu un moment de tension extrême, vraiment extrême. Et à nos adhérents, on leur a dit, faites attention, soyez vigilants.
Quelques jours après donc cet acte qui est pris comme un acte d'intimidation par les personnes qui sont contre ce projet, quelques jours plus tard, le 26 septembre 2020, une première manifestation d'opposants à ce projet est organisée avec un pique-nique joyeux. Elle rassemble cette manifestation 300 personnes. Est-ce qu'elle est portée par les associations qui ont mené la bataille devant les tribunaux ?
Non. Alors moi, j'ai pas au niveau du nombre. Oui, moi j'ai pas du tout la même chose que vous. Ce pique-nique joyeux, on était plus de 600 là.
Et là, je donne les chiffres donnés par la presse.
D'accord, ok. Non, mais bon, de toute façon, c'est comme la police, on sait que...
Donc vous revendiquez plus de monde.
Voilà, oui, il y avait franchement, quand on voit les photos, puisqu'on les voit a posteriori, il y avait vraiment beaucoup de monde, un très très bon état d'esprit.
Juste pour reparler du nombre, moi j'ai vérifié justement les déclarations de la presse sur un comptage que j'ai fait personnellement. Lors de la dernière manifestation, la presse parlait de 400 manifestants, j'en ai compté 530.
Il y a une seconde manifestation qui est organisée le dimanche 4 octobre 2020. La presse parle d'une soixantaine de personnes. Une troisième le 17 octobre avec, selon la presse, encore une fois, quarantaine de personnes. Moins de monde, donc, pour ces deux autres manifestations.
Alors, oui, il y a eu effectivement, on peut le reconnaître, des manifestations où nous avons eu moins de personnes parce que le temps, parce que le Covid, parce que les gens ont autre chose à faire et que ça, on peut tout à fait l'entendre.
Puis une quatrième manifestation est organisée en janvier de cette année. Là, elle rassemble un peu plus de monde.
Oui.
300 personnes selon la presse.
Vous... Plus de 800, là.
800
alors,
selon
vraiment,
vous.
Vraiment, oui. On est le 17 janvier, je crois que c'est vraiment... Moi, pour moi, c'est la plus grosse que nous ayons en termes de personnes. Hein,
on a
nous
eu 550 signatures.
Oui, ce jour-là.
Ce jour-là.
En direct.
Donc, à minima, c'est le nombre de personnes qui seraient venues.
Quels sont les soutiens politiques à
Alors,
votre cause
les soutiens politiques sont nombreux. Hein, je vais vous citer ceux qui, comment dirais-je, ont vraiment signé, si vous voulez. Hein. Mais bon, nous avons M. Molac, M. Pellois, M. Labbé. Nous en avons d'autres, hein, mais bon... Je ne peux pas citer tout le monde.
Vous êtes soutenu également par des personnalités comme l'écrivain Yann Kefelec, le chanteur Gilles Serva ou encore le médecin explorateur Jean-Louis Etienne, et vous en avez fait les présidents d'honneur de Berder Ensemble avec le navigateur Jean-Henri Guidel.
Et Madame Irène Frein. Je me permets de le dire, c'est la seule femme. Donc.
Et ils ont tous écrit également une lettre ouverte.
Voilà, ils ont fait deux lettres ouvertes, deux très très belles lettres, et je crois qu'on ne les a pas encore suffisamment remercié. On peut encore le faire à votre antenne. Merci.
C'est à cette époque également de la lettre ouverte que naît l'association Berder Ensemble que vous représentez. Il y avait déjà plusieurs associations, on l'a vu, qui luttaient contre ce projet. Pourquoi avoir décidé de créer une nouvelle association ?
Parce que nous sentions que nous avions une force. Nous voulions expliquer, je dirais, la problématique, comme vous le faites aujourd'hui de Lille, enfin voilà, la problématique, expliquer le projet Giboire tel dans sa réalité. Et nous avions besoin d'avoir une légitimité. On ne pouvait pas rester dans un collectif, si vous voulez. Nous voulions pouvoir parler aux différentes collectivités et pour ça, il fallait que nous passions en association.
Et d'ailleurs, ça a fonctionné puisque vous êtes reçu par le préfet en mai.
Tout à fait. Nous sommes reçus par le préfet au mois de mai.
L'ancien préfet. Hein.
L'ancien, oui, 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 l'ancien préfet, puisqu'il a changé, effectivement. Et par son chef de cabinet et par le directeur de la DDTM, hein, Direction départementale des territoires et de la mer. Donc, c'était quand même très important. Monsieur le préfet connaissait très très bien le sujet, ça veut dire que voilà, nous avions été entendus, d'autres peut-être aussi, et il nous a fait savoir que il fallait effectivement attendre que le jugement du tribunal administratif soit rendu, mais que lui était prêt en tout cas à être intermédiaire afin de réunir toutes les parties.
Vous l'avez évoqué rapidement, est-ce que la mairie, elle, soutient ce projet selon vous ?
Oui, tout à fait. Je veux dire, rien que le fait de la signature, sans avoir, pour moi, étudié le béaba du droit de l'urbanisme, c'est pas le travail de monsieur le maire hein, d'étudier le droit, mais je pense que bon, il est entouré, il n'est pas tout seul normalement. Oui, il y a un soutien, mais j'ai envie d'aller plus loin. Voilà, c'est un soutien total.
Pourtant, le maire, lui, dans la presse, dit ne pas être pour ou contre et qu'il délivre un permis de construire sans parti pris.
Oui, oui, bon, il a le droit de le dire, hein, bien sûr, bien sûr.
Et les commerçants, comment ils se positionnent par rapport à ce projet ?
Ils sont très, très partagés. Très partagés, et c'est là où c'est là où la guerre un petit peu a été déclarée sur l'armoire Baden. C'est vrai qu'on a vu poindre, si vous voulez, des affiches sur certains commerces, pas tous, qui disaient laissez-nous gérer l'armoire Baden, et surtout qu'un espèce de racisme ambiant, c'est-à-dire vous n'êtes pas d'ici, donc laissez-nous tranquilles.
C'est ce qu'on reproche parfois aux membres de l'association, de ne pas être de la commune.
Voilà, c'est pas vrai, parce que, je dirais, dans nos adhérents, nous avons un certain nombre de gens qui habitent l'armoire Baden. Effectivement, on va dire, moi, Alain, nous ne sommes pas de l'armoire Baden, mais Berder n'appartient pas à l'armoire Baden. Elle est sur la commune de l'armoire Baden. Berder, c'est beaucoup plus que ça. C'est un emblème pour le golfe du Morbihan.
Et donc pour tous les Morbihanais ?
Et pour tous les Morbihanais, ça ne leur appartient pas.
Le lundi 12 juillet, le tribunal administratif de Rennes décide d'annuler partiellement le plan local d'urbanisme de la commune de l'armoire Baden. Le président du groupe Giboire s'exprime à ce moment-là. Il dit alors prendre acte que le projet hôtelier ne se fera pas. On est mi-septembre, soit 2 mois plus tard. On peut dire aujourd'hui que la bataille contre ce projet est gagnée.
Alors non. Là, il y a une limite, c'est que le maire de l'armoire Baden pouvait faire appel contre le rejet du PLU par le tribunal administratif.
Il avait 2 mois, donc ?
Il était sur une date limite du 12 septembre, c'est-à-dire il y a quelques jours. On n'a à l'heure actuelle pas encore la réponse officielle sur ce qui s'est produit. Et c'est, pour nous d'ailleurs, c'est le début d'une nouvelle étape. S'il n'y a pas de nouvel appel, de recours, à ce moment-là, tout est ouvert. Et on peut imaginer, avec la collaboration avec M. Giboire, ou alors l'éventuel rachat de l'île par les collectivités territoriales, le département et la région.
Si le groupe accepte, bien évidemment.
Bien évidemment.
Et là, je veux dire, tout est ouvert et on n'a pas commencé quelque chose. On est juste à l'heure actuelle sur la réflexion sur que pourrions-nous faire de cette île.
Aujourd'hui, le groupe, s'il veut poursuivre, doit modifier son projet ou en déposer un nouveau.
Voilà, tout à fait. En tenant compte, en tout cas, pour le moment, de ce qu'a dit le tribunal administratif.
Il est temps aujourd'hui de réfléchir à l'avenir de cette île, car le bâtiment est vieillissant. On l'a vu en janvier, quand une partie de la tour s'est effondrée, que les heures comptent aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Les heures comptent, en tout cas, en ce qui concerne le patrimoine bâti. Ça nous attriste énormément, parce que, bon, on ne veut pas laisser Berder sous cloche, on veut que Berder vive, qu'il y ait des projets. Et nous, en tout cas, on en a, qui sont respectueux, je dirais, des diverses protections de l'île de Berder. Et le type de projet, par exemple, ce serait l'école de voile, telle que Eugène en parlait, des projets concernant le patrimoine bâti, un centre de vacances, remettre un centre de vacances, un hôtel. Donc là, pourquoi pas M. Giboire ? S'il était en capacité de proposer quelque chose qui soit respectueux du patrimoine existant, puisqu'on ne peut pas étendre, pourquoi pas M. Giboire ? Et on pourrait aussi imaginer des hébergements collectifs, de la restauration collective, des bars, des petites boutiques de produits locaux. Et puis, l'utilisation de ces 23 hectares de terrain, à la fois à des fins culturelles, environnementales, et pourquoi pas de l'élevage. Voilà, ce qui existait avant.
Alors je rappelle Catherine Guédan et Alain Goffi que vous êtes membres de l'association Berder Ensemble. On est revenu ensemble sur les contestations contre le projet hôtelier du groupe Giboire sur l'île de Berder. On va terminer cette émission en musique, mais avant de ça, pour terminer, est-ce qu'aujourd'hui des discussions avec le groupe Giboire seraient possibles ?
À mon sens, c'est le début. On va commencer, à mon avis sous peu, à relancer les collectivités territoriales. On a déjà commencé à le faire. On va solliciter M. Giboire pour voir si on peut se mettre autour de la table pour essayer de créer quelque chose ensemble. C'est, je dirais que le premier rejet du PLU, c'est quand même la porte ouverte à quelque chose de neuf et qui pourrait satisfaire l'intégralité de la population du golfe du Morbihan.
Catherine Guédon, un dernier mot.
Eh bien, nous sommes pleins d'espoir. Nous sommes pleins d'espoir parce qu'une porte s'est ouverte et c'est vraiment ce que nous voulions. Mais effectivement, M. Gibois reste propriétaire de l'île. Donc, nous sommes obligés, en tout cas, de faire avec lui, s'il lui accepte de faire avec nous.
On va terminer avec une chanson sur une autre île morbihanaise de celui qui vous avait fait président d'honneur de votre association, Gilles Serva, avec l'île de Roy. Catherine Guédon et Alain Goffi, merci.
Merci beaucoup, merci. Fessal.
De quelle source lui vient son nom ? Est-ce de fée ou de sorcière ? Ou de quelque bois enfer ? Comme la boue de ses sillons. On dit que l'on y voit sa joie, on dit que l'on y voit sa croix. Je parle de l'île de Groix. Malheur à celui qui débarque, il n'aimera pas ses hivers. Il trouvera ses quais déserts, car le flot seul mène les barques. Mais essayez de foutre le camp, elle vous aura au sentiment, comme femme retient l'amant. L'hiver la tient en frissonne, pour mieux la coucher au printemps. Premier soleil sur les buissons, il n'y aura plus de gelée. L'eau de ses ports est froide encore, mais fleurissent les boutons d'or, et le goéland a prié sort. Si à travers mes yeux mi-clos, il me plaît à revoir Juillet, je sens l'odeur du goudron frais qu'on passe aux quilles des bateaux. La menthe des sournois ruisseaux lutte avec l'odeur des sureaux, de la vapeur tremble sur l'eau. Les vieux parlent du temps passé, alors que Maria et Portudis. Si vous ne comprenez pas, tant pis, moitié français, breton, moitié. On dit que l'on y voit sa joie, on dit que l'on y voit sa croix. Je parlais de l'île de Groix.